Transmission from NPR News.
That's it, he's on Peter House.
France Inter, le 18-20.
Elle sert à quoi au fond cette élection en Algérie demain que ceux qui manifestent depuis le 22 février jugent illégitime, non avenue? Que peut-il se passer le 13, le lendemain du scrutin? Où va cette Algérie nouvelle qui veut se débarrasser de son ancien monde? On le voit très vite avec le premier invité ce soir. Le bruit du monde est au Rwanda, dans une église très particulière que je vous laisserai découvrir. Et Amélie Perrier, le bruit du monde, la suite, nous emmène en Patagonie, au Tirol et dans le Pacifique. 18h50, le cinéma en VO et Eva Béton avec le nouveau film de Terrence Malick. Et puis 18h55, Le Monde à l'envers, signé Isabelle Labéry. Ce soir, la plus grosse entrée en bourse de l'histoire, le géant pétrolier saoudien Aramco. Le monde est vaste et on n'a qu'une heure. Bonsoir.
Un jour dans le monde.
Bonsoir Akram Belkaïn.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste au Monde Diplomatique, vous chroniquez au Quotidien d'Oran, vous collaborez à Orient 21, vous avez écrit l'Algérie en 100 questions, un pays empêché, c'était cette année chez Talendier. Je vais répéter la question que j'ai posée tout à l'heure en introduction, au fond, à quoi sert cette élection si elle est largement boycottée par les Algériens? Qu'est-ce qu'au moins elle nous dira?
Cette élection sert à faire revenir l'Algérie dans un semblant de normalité et de légalité constitutionnelle. C'est une élection qui est très importante pour le pouvoir algérien parce qu'elle remet en quelque sorte, selon lui, les compteurs à zéro, puisqu'il y aura un président, ou peut-être pas tout de suite, parce qu'il peut y avoir un second tour.
Il peut y avoir deux tours.
Dont on ne connaît pas la seconde date, la date pour ce second tour. Mm-hmm. Donc, ça donnera donc un président civil élu, qui officiellement aura une légitimité et donc qui permettra à l'armée de reprendre sa place, c'est-à-dire celle de l'arrière-plan, et de ne plus être en première ligne par rapport aux revendications de la société algérienne.
C'est qu'elle préfère au fond, parce qu'on la sent à la fois Ahmed Gaït Salah est gêné aux entournures. Je ne sais pas s'il est réellement gêné aux entournures, mais en tout cas, il est dans un rôle frontal qui n'est pas censé être celui de l'armée algérienne. En tout cas, il n'est pas très habitué à ça.
Effectivement, ce n'est pas du tout son travail. Et depuis le mois de février dernier, il a multiplié les discours. Il a fait, en tant que chef d'état-major, plus de discours que tous ses prédécesseurs réunis. Il est en première ligne. Il est devenu une cible pour la rue, pour les manifestants. Donc, c'est pas du tout une situation que l'armée juge normale. Et donc, demain, ou après-demain, ou dans quelques jours, s'il y a un président élu, ce président sera en première ligne. Le gouvernement qu'il pourrait nommer seront en première ligne devant les manifestants parce que la contestation, elle, ne s'arrêtera pas.
Alors, l'échec de cette élection, c'est-à-dire si, en effet, il y a un taux de participation qui est extrêmement minime. D'abord, j'ai envie de vous dire, est-ce qu'on le verra s'il y a échec ou est-ce qu'on risque de se retrouver avec des chiffres fantaisistes puisqu'en ce moment, le pouvoir nous montre une espèce d'enthousiasme terrible pour ces élections dont on sait que cet enthousiasme n'existe pas. Donc, s'il y avait échec de cette élection, d'abord, est-ce qu'on le verrait? Et quelle pourrait être la conséquence si ce président est élu avec un tout petit pourcentage? Est-ce qu'il y aurait une conséquence politique où, comme vous le disiez, le pouvoir dirait c'est lui le président, quelle que soit la manière dont il a été élu?
On est habitué en Algérie à avoir des chiffres qui ne correspondent jamais à la réalité. Et puis ensuite, on a quelques petites fuites qui nous indiquent quel aurait pu être le vrai taux. On voit aujourd'hui, par rapport au taux de participation de la diaspora, on voit des chiffres officiels qui commencent à circuler qui sont complètement étonnants. Mmh. C'est-à-dire que l'instance indépendante qui est censée assurer le bon déroulement des élections parle d'un taux de participation de 20%. Or, tous ceux qui ont pu aller ou qui ont surveillé ces élections, même de l'extérieur, qui sont allés dans les consulats, ont bien vu qu'il n'y avait personne. Donc on ne peut pas affirmer qu'il y ait un électeur sur cinq qui se soit rendu dans les bureaux. Donc on ne connaîtra peut-être jamais le vrai taux réel. Et puis c'est un pouvoir qui n'hésitera pas à afficher un taux que lui-même aura décidé, n'en déplaise à tous ceux qui dénonceront cet écart par rapport à la vérité. Ça s'est toujours passé comme ça et ça continuera à se passer tant qu'il n'y aura pas une remise profonde en question du régime. Donc voilà. Alors, bien entendu, pour les militaires, l'intérêt aussi d'avoir un score qui ne soit tout de même pas trop élevé, il ne faut pas qu'il soit trop élevé non plus, il ne faut pas que ce soit un plébiscite, c'est de signifier à celui qui sera élu de ne pas oublier qui l'ont fait roi. Donc c'est un jeu de, c'est un pas deux qui est classique dans la vie politique algérienne.
J'allais dire classique de la vie politique algérienne. Vous avez raison, Akram Belkaïd. En même temps, c'est le vieux monde algérien.
C'est le vieux monde, oui. C'est le vieux monde. Oui,
est-ce qu'il, est-ce que, au fond, comme si ces gens essayaient de remettre le dentifrice dans le tube en se disant les gens vont rentrer chez eux. Mais on sait bien que les gens vont pas rentrer chez eux à ce moment-là et que ces vieilles techniques-là, les Algériens les connaissent. C'est bien pour ça qu'ils sont descendus dans la rue le 22 février. C'est sur ce ras-le-bol et cette humiliation même de ces bonnes vieilles techniques qui riment à rien. Donc, en quoi ça va marcher cette fois-là? Ça ne peut pas marcher cette fois-là encore, non?
C'est un régime qui a pour principe, parmi toutes ces tactiques, il y en a une qui est fondamentale, qui est celle de gagner du temps. C'est-à-dire une étape après l'autre.
Donc ça veut dire qu'il y aura deux tours, par exemple, quand je vous entends. Par exemple, stratégiquement.
Pas sûr. Mais stratégiquement, il faut qu'il y ait un président. On verra après. Et puis ce président, peut-être qu'on va lui permettre de faire quelques concessions à la rue, de prendre des mesures d'apaisement, de manière peut-être à diviser le Hirak, le mouvement populaire. Tout est possible. On peut aussi avoir un autre scénario qui est celui de la répression, dans la mesure où le président étant élu, officiellement bénéficiant de la légitimité des urnes, le message très clair sera maintenant vous rentrez chez vous.
J'allais vous poser la question, la crainte, est-ce que c'est celle-là? Est-ce que la patience du pouvoir, la patience de l'armée s'arrête au 13 décembre, à votre avis? Je mets des guillemets à patience, évidemment.
Oui, c'est vrai que ça a été une patience assez spéciale parce que d'un autre côté, on a tout de même eu des arrestations. Je signale qu'aujourd'hui encore, il y a eu des heurts à Alger, il y a eu des tentatives de marche qui ont été réprimées. Enfin, il y a eu des bousculades, il y a eu des arrestations. Il y a aujourd'hui des détenus d'opinion dont certains ont entamé une grève de la faim. Donc ce n'est pas non plus un long fleuve tranquille.
Mais il n'y a pas eu de tir.
Heureusement.
Et on s'en est presque étonné, c'est terrible à dire, mais on s'en est presque étonné.
Que depuis le début de la contestation, malgré les premières menaces au mois de février, il y a eu une espèce de consensus implicite qui a été dictée aussi par l'attitude de la population qui a opté pour des manifestations pacifiques et qui, jusqu'à présent, a refusé de tomber dans le piège de la violence. L'armée algérienne aussi a derrière elle de très mauvais souvenirs, les tueries d'octobre 88, tout ce qui s'est passé pendant les années 90. Je pense qu'il y a un consensus assez partagé, global, qui consiste à dire pas de violence de ce type-là. Ce qui n'empêche pas des mesures d'intimidation, des arrestations, des interdictions de manifester. Mais encore une fois, vous avez raison de le dire, c'est le vieux monde, c'est une vieille manière de voir les choses. C'est un peu le XXe siècle contre la jeune génération, celle qui est sortie dans les rues la première le 21 février. Et c'est pour ça que ça va être très difficile de convaincre, d'obliger les gens à rentrer chez eux, puisque leur démarche, c'est de dire plus jamais ça. Plus jamais vos entourloupes du passé, même si, il faut tout de même le dire, même si une partie de la population est tout de même assez sensible sur les discours, sur l'ingérence étrangère, la main de l'étranger, les pressions extérieures, ça peut pousser. Il va y avoir une partie d'Algérie qui, demain, va aller voter. Ça, on ne peut pas le cacher non plus.
Est-ce que l'état-major craint que l'armée ne se divise? Est-ce qu'il y a eu des signes d'une armée qui peut se diviser? Parce qu'après tout, l'armée algérienne a aussi des enfants, des frères, des femmes qui sont, j'imagine, dans la rue en ce moment et depuis le 22 février.
Bien entendu, il y a, c'est une armée populaire, c'est une armée qui ne vit pas totalement coupée du reste du pays. Vous avez énormément d'officiers, notamment de rang moyen, qui vivent à peine un peu mieux que les classes moyennes algériennes. Donc les gens sont au courant, savent. En même temps, c'est une armée qui a été modernisée. C'est-à-dire qu'on n'a pas affaire à une armée qui demain pourrait, ou en tout cas personne ne le souhaite en tous les cas en Algérie, y compris les opposants les plus virulents à l'égard du système, personne ne souhaite de mouvements factieux ou de divisions. Et jusqu'à présent, on n'en a pas vu les signes. C'est une armée, il y a un chef d'état-major qui fait énormément de déplacements, qui va d'une région militaire à une autre, qui fait des discours. On voit des parterres d'officiers prendre des notes et l'écouter religieusement. Pour le moment, il n'y a pas eu de dissidence et encore une fois, c'est tant mieux parce que le pire des scénarios, ce serait que on soit dans ce genre de situation. Vraiment, la démarche aujourd'hui du Hirak est une démarche pacifiste, c'est-à-dire d'arriver à convaincre Ça va prendre du temps, ça va être difficile, mais d'arriver à convaincre l'armée qu'il est temps pour elle de se retirer du jeu politique et qu'il est temps surtout de faire confiance aux Algériens. Mmh. Parce que jusqu'à présent, c'est une question de confiance. C'est-à-dire que si les élections sont verrouillées, truquées, verroulées, virussées, comme on le dit souvent là-bas, c'est aussi parce que il y a une partie, dans la mentalité du pouvoir algérien, c'est ce peuple est incapable de se prendre en charge lui-même.
Mais Akram Belkaïd, j'entends ce que vous dites et je vois bien ce que c'est que cet ancien monde algérien. Mais est-ce qu'au fond de lui, ce général Salah et d'autres n'ont pas exactement compris ce qui s'est passé en Algérie? Ils ne sont pas totalement aveugles non plus. Ils ont vu aussi d'autres révolutions dans le monde arabe. Est-ce qu'ils font semblant de ne pas comprendre, selon vous, ou est-ce que vraiment ils sont dans un monde qui est totalement hors sol?
C'est clairement un peu des deux. Mm-hmm. C'est effectivement un déni. Il y a du déni. Il y a clairement du déni. Quand on lit certains discours de Gaït Salah ou quand on les entend, on se demande s'ils parlent du même pays, s'ils parlent de la situation algérienne. Mais il y a en même temps une manière de voir le monde qui n'a pas disparu, qui reste profondément ancrée, qui consiste à penser que les sociétés ne peuvent être que verticales, pyramidales, que la décision ne peut venir que d'une minorité au pouvoir et que, ma foi, toutes ces initiatives populaires, toutes ces revendications ne sont le fait que d'une jeunesse turbulente qui va bien finir un jour par se calmer.
Ce mouvement n'a pas de tête. Il y a eu quelques apparitions. Alors, on peut comprendre aussi pourquoi il n'y en a pas, parce que l'une des apparitions qui était Karim Tabou est en prison, par exemple. Donc, l'une des stratégies, on a bien compris, dès qu'une tête émerge, c'est de l'enfermer. Vous le disiez, il y a eu 300 arrestations. Pour autant, faut-il qu'il se donne une tête, au moins un groupe, dans son évolution, ce mouvement du 22 février, pour qu'il puisse avancer, y compris après cette élection pseudo-élection, doit-elle avoir, si ce n'est un leader ou en tout cas un groupe, quelque chose, un interlocuteur? Dans quel sens doit-il évoluer selon vous?
Vous savez, dans le Diplo de ce mois, on publie un reportage d'Aris Kimetrev, journaliste et écrivain algérien, dont sur le Hirak, et l'une des personnes qu'il a interrogé, une avocate, lui a dit: écoutez, on est là, si ça doit durer 7 ans, ça durera 7 ans. C'est-à-dire que les gens s'inscrivent un peu dans le long terme. On part d'une situation, je dirais, de vide, non pas absolu, mais presque de vide total. C'est-à-dire que le champ politique a été dévasté, les partis politiques sont nombreux d'eux-mêmes, et bien entendu, de toute cette génération Hirak, parce qu'on la voit, elle est là, elle commence à émerger, il y aura très certainement des initiatives, mais on part de très loin. C'est pour ça qu'encore une fois, moi, je dis souvent qu'il faut vraiment s'inscrire dans le long terme. C'est quelque chose que le pouvoir a compris. Vous voyez, là, il perd pas le nord.
Ah ouais.
Si je prends, par exemple, le cas du rassemblement Action Jeunesse, de le RAJ, il a été, en quelque sorte, décapité, puisque une bonne partie de ses éléments, de ses dirigeants, sont en prison aujourd'hui. Mais ils sont en prison aujourd'hui, ça ne veut pas dire qu'ils renonceront à l'action, qu'elle soit de société civile, voire même à l'action de politique. C'est-à-dire qu'on est effectivement, le temps 2 du Hirak va être nécessairement un temps d'organisation et je dirais de convergence de toutes les forces politiques naissantes.
Mais du coup, en vous écoutant, ça veut dire au fond qu'il faut qu'un président émerge de cette élection, quitte à ce que ce soit un président de transition, en effet, pour le pas d'après, lorsque le Hirak sera mieux organisé, lorsqu'il y aura quelque chose à sortir, lorsque ce temps long aura passé. Au fond, il faut un président de transition dans ce pays, en fait, non?
Beaucoup de gens qui manifestent aujourd'hui auraient préféré que les choses se passe autrement, qu'on puisse mettre à profit le départ de Bouteflika pour essayer de revenir au processus d'ouverture qui avait été initié à la fin des années 80 pour lancer une nouvelle constitution et pour que
les gens... Un scénario soudanais d'ailleurs, parce qu'on a beaucoup fait la comparaison effectivement.
Oui, et puis que les jeux soient moins truqués. Ça n'a pas été le cas. Donc effectivement, au mieux, le président qui va être élu va être tenté de toutes les façons, parce que quand on regarde leur programme entre guillemets électoral, tous ont fait des promesses d'aller vers le Hirak, de faire des mesures d'apaisement, etc. Donc ils vont être obligés de le faire, parce que sinon, ça va être une montée en tension dont personne ne veut. Mais on voit mal, parmi les 5 candidats, on voit mal l'un d'entre eux être le réformateur qui changera la donne. Parce que de toutes les façons, le voudrait-il, il n'est pas sûr qu'il ait l'autonomie nécessaire pour le faire.
Il n'y aura pas d'autres, je vous ai compris, dans les rues d'Alger, en tout cas pas à ce moment-là. Je fais cette comparaison parce qu'on a beaucoup dit que ce mouvement était finalement une deuxième indépendance, en fait. Est-ce que vous diriez les choses comme ça aussi?
C'est très difficile parce que beaucoup de gens qui ont lutté pour l'indépendance ont du mal à faire le parallèle, mm-hmm. parce que l'Algérie aujourd'hui est indépendante, c'est pas du tout la même réalité, mm-hmm. même si effectivement mm-hmm. on peut faire le parallèle entre les dirigeants aujourd'hui et ce que furent les colons de l'époque. Mm-hmm. Mais en même temps, moi je dirais une deuxième libération ou un nouveau départ, une refondation.
Une dernière question, Monsieur Belkaïd. La France s'est tenue à l'écart jusqu'à présent, elle l'a probablement bien fait, parce qu'effectivement, on aurait pu avoir le sentiment que la puissance coloniale était en train de revenir en Algérie, mais d'autres pays, l'Europe n'a pas dit grand-chose non plus, les députés européens ont écrit un texte qui est non contraignant. Est-ce qu'il faut en faire plus? Est-ce qu'à un moment, il faudra quand même que au moins l'Europe se mêle, se dise des choses sur ce qui se passe en Algérie, ou pas encore?
Alors, plusieurs choses rapidement. La première, c'est que la déclaration du Parlement européen, j'estime qu'elle a été contre-productive parce qu'elle a donné des arguments au régime pour dénoncer
l'ingérence.
Elle est tombée très mal. Elle aurait dû tomber plus tôt, elle est tombée très mal. Deuxièmement, par rapport à la France, aujourd'hui, Emmanuel Macron, le président, a reçu le nouvel ambassadeur algérien qui a présenté ses lettres de créance. Est-ce que c'est un hasard? C'est une drôle de coïncidence, mm-hmm. tout de même, parce que c'est tout de même un ambassadeur qui a été nommé par un gouvernement contesté. En tous les cas, pour finir, la majorité des Algériens ne veulent absolument pas d'aide extérieure. C'est-à-dire, c'est une donnée, elle est incontournable, on peut en discuter, on peut débattre là-dessus, mais ils disent, d'ailleurs la formule qui revient le plus souvent, c'est « on lave notre linge sale en famille ». Ça peut être critiqué, mais en tous les cas, c'est la réalité.
Et c'est comme ça. Merci beaucoup Akram Belkaïd. On va les suivre évidemment d'extrêmement près, ces élections. Merci mille fois. La suite d'Un jour dans le monde, ça se passe à Kigali, dans une église dite inclusive. Ah oui, ça c'est moi qui me marche dessus, donc voilà. Qui accueille des communautés LGBT. Le bruit du monde, la suite, c'est Amélie Perrier. Bonsoir.
Bonsoir.
Rebonsoir, avec un nouvel état dans le Pacifique Sud, alors.
Bougainville, c'est le nom d'un navigateur français. C'est aussi peut-être le nom d'un futur état, effectivement.
Le cinéma en VO, Eva Bétan. Le très rare Terrence Malick, dites-moi.
Oui, alors, dire oui dans la vie, c'est facile. Dire non, c'est beaucoup plus difficile. Vous allez voir ça avec Terrence Malick.
Et le monde à l'envers avec Isabelle Labéry. Isabelle, on parle d'une entrée en bourse, on va dire fracassante.
Oui, celle d'Aramco, le géant saoudien du pétrole. Est-ce que ça suffira à assurer l'avenir du royaume? Rien n'est moins sûr.
Et à tout de suite tout le monde, le tour de la planète n'est pas fini, il passe par Fort Worth au Texas, figurez-vous, voici Leon Bridges, Bad Bad News, et c'est vrai que les nouvelles sont pas toujours bonnes. Le bruit du monde. Monde ce soir est au Rwanda et nous sommes dans une église pas comme les autres, The Fellowship of Affirming Ministries, ou la TIFAM, qui a été fondée aux États-Unis en 2000 au sein de la communauté afro-américaine. Depuis 2 ans, elle existe aussi à Kigali, la capitale rwandaise, et se présente comme une église évangélique inclusive, c'est-à-dire qu'elle ouvre ses portes aux personnes LGBT. Un véritable refuge donc pour une communauté stigmatisée, rejetée par toutes les communautés religieuses. C'est Laure Broulard qui vous y emmène.
Faites de la place pour les personnes LGBT, de la place pour les marginalisés, pour les transgenres, faites de la place. Ce prêche, proféré par l'évêque Joseph Tolton, a de quoi surprendre. Et pourtant ici, la congrégation applaudit et reprend en chœur. Femmes, hommes, enfants, une 50aine de personnes se lèvent de leurs chaises en plastique. Dans cette petite église aux airs de salle des fêtes, l'ambiance est à la communion. Essuyant la sueur sur son front à l'aide d'un mouchoir blanc, l'évêque invite les fidèles à se tourner vers leurs voisins. Chacun doit dire « Faites de la place pour moi ». Joseph Tolton est venu tout droit de New York ce dimanche et il appelle cela de la réconciliation spirituelle.
Nous tentons non seulement de réconcilier les sexualités humaines avec la religion, mais aussi de présenter au monde le message originel de Jésus-Christ. Tout le monde est le bienvenu et doit pouvoir avoir un accès à la grâce de Dieu.
L'église TIFAM entend ainsi prendre le contre-pied de mouvements évangéliques aux valeurs très conservatrices qui rencontrent un franc succès en Afrique.
Le développement du monde chrétien évangélique a été jusqu'ici dominé par les conservateurs et les intégristes, et plus particulièrement par les intégristes américains. Et donc, au lieu d'avoir des campagnes contre la pauvreté, contre la corruption ou pour la démocratie, les Ougandais ont une campagne anti-homosexuelle.
En 2009, l'Ouganda provoquait en effet un tollé international avec un projet de loi plus connu sous le nom de « mort aux gays » et qui prévoyait donc la peine de mort pour des cas, je cite, « d'homosexualité aggravée ». Un texte jamais voté, mais souvent remis sur la table. Et derrière cette campagne homophobe, eh bien on trouve des pasteurs évangéliques et des membres du gouvernement ougandais proches des milieux conservateurs américains. Au Rwanda, la situation est très différente. Le pays fait même exception dans la région, car l'homosexualité n'y est pas punie par la loi. Pourtant, les personnes LGBT y sont encore victimes de stigmatisation. C'est le cas de Patrick. Avant de découvrir la chorale de TIFAM, ce jeune choriste a été rejeté par plusieurs églises.
En fait, ils n'aiment pas ça, parce qu'ils disent qu'en Bible, que Dieu n'accepte pas les gays, que c'est, nous sommes diaboliques, quoi. Et même si, quelquefois, je faisais comme si je ne suis pas gay, mais c'est très difficile d'être celui qui n'est pas. C'était très difficile, parfois, ils me chassaient de la chorale, parfois, ils me disaient, viens, mais il faut être comme un homme quand même, il faut porter comme des hommes, il faut te comporter comme des hommes, marcher comme des hommes. Et j'essaie tout ça, mais je ne peux pas être celui qui je ne suis pas. Mais l'homosexualité, ce n'est pas un péché. Parce que c'est comme ça que je suis né. Ce n'est pas quelque chose qui m'a attrapé comme une maladie. Non. Moi, je crois que Dieu m'aime comme je suis. Parce que c'est comme ça qu'il m'a créé.
Aujourd'hui, Patrick chante le sourire aux lèvres, entouré de 3 autres jeunes choristes, dreadlocks en chignon, jean moulant et boucles d'oreilles. Ici, ils n'ont pas peur de paraître efféminés, ils savent que le public leur est acquis. Écoutez cette jeune femme venue de l'autre bout de Kigali pour assister au service.
J'ai choisi cette église premièrement parce qu'ils enseignent la parole de Dieu, la parole de Jésus-Christ. Il n'y a pas de divisionnisme dans l'Église, donc on accepte quelqu'un et quelqu'une, quoi qu'il est. Donc, c'est une bonne Église pour moi.
C'est maintenant au tour d'Albert Nabonibo de se présenter devant la congrégation. Ce comptable rwandais, chanteur de gospel à ses heures perdues, a fait la une de la presse rwandaise l'été dernier, et pour cause. Il a avoué son homosexualité en direct sur une chaîne de télévision chrétienne, un coming out qui a bouleversé sa vie.
Après mon coming out, j'ai reçu énormément de réactions sur ma page Facebook et sur mon portable. Il y a eu beaucoup de messages de haine. Certains me disaient « Tu n'es pas sérieux ». D'autres « Mais Albert, tu es malade ». Il y en a aussi qui m'ont soutenu, disant que ce que j'ai fait les a vraiment aidés. Mais je dois dire que globalement, dans ma société, la société rwandaise, les gens réagissent très mal. J'ai été forcé de quitter mon travail car mon patron n'a pas accepté ce que j'ai fait.
Après qu'il a vu mon interview, le management a décidé de stopper moi.
Après cela, Albert pensait également qu'il ne pourrait plus jamais chanter du gospel dans une église, mais c'était sans compter sur Tifam.
Laure Boulard, correspondante des RFI et de France Inter. Merci beaucoup, Laure. Le bruit du monde, la suite, ça donne ça. Eh ben, dites-moi.
Ouais, ça fait peur. Hein.
Un petit peu. Amélie Perrier, nous sommes, on est où? On est au centre de l'Argentine, en Patagonie, magnifique, autour de Vaca Muerta.
La vache morte, hein, ouais. Si je vous le traduis littéralement. En fait, c'est le nom plutôt funeste d'un projet de fracturation hydraulique. La zone est considérée comme la deuxième réserve mondiale de gaz de schiste, quatrième pour le pétrole de schiste, un trésor caché très profond dans le sol et sur lequel ont misé tous les dirigeants du pays. Ah, ici, la présidente Cristina Kirchner, en 2011, brandissait une petite fiole et annonçait que la découverte de cette huile nous aidera à soutenir et favoriser le développement du peuple argentin. Lui, c'est le président Mauricio Macri, en 2018, il promettait « Nous le développerons malgré tous les obstacles ». Vaca Muerta est incontournable, le projet va continuer de croître. Et le troisième, là, c'est l'actuel chef de l'État, Alberto Fernandez. Il le clame le mois dernier, Vaca Muerta apporte de l'espoir à toute l'Argentine. Petit rappel chronologique, donc, dans un documentaire de l'agence Philo. Sauf que cet or noir, il faut aller le chercher à 3 km de profondeur, puis à travers un tunnel horizontal de 300 mètres de large. Ça nécessite une technique controversée, la fracturation hydraulique. On casse la roche avec de l'eau à haute pression et des produits chimiques. Et aujourd'hui, les habitants de la région sentent la terre trembler. Ils voient leur maison se fissurer. D'un côté donc, les partisans de Vaca Muerta, une manne financière pour un pays secoué régulièrement par les crises économiques et financières. De l'autre, les opposants, défenseurs de l'environnement. Pour eux, Vaca Muerta crée des séismes, contamine l'eau et l'air, assèche les plantes et menace les dizaines de kilomètres carrés sur lesquels s'étend le gisement. Des vergers qui donnaient des poires et des pommes. Et là aussi, l'impact environnemental est immense car les arbres fruitiers absorbaient bien plus de CO2 que le sol désertique d'aujourd'hui. Sans parler des Indiens Mapuches. Ils assurent avoir été déplacés à cause des conséquences de la fracturation hydraulique et n'avoir jamais été consultés. Pour eux, la voie Vaca Muerta est illégale. Oui, mais elle promet de juteuses retombées économiques.
On va changer de coin totalement. Bientôt un nouvel état dans le Pacifique Sud.
Les électeurs de Bougainville ont voté en faveur de l'indépendance. On vient d'avoir les résultats sur les près de 180 000 électeurs. 98% se sont prononcés en faveur de l'indépendance de leur île vis-à-vis de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Le résultat doit être ratifié par le Parlement de Papouasie-Nouvelle-Guinée. L'ampleur de ce résultat devrait peser en faveur des habitants de Bougainville. Écoutez John Momis, le dirigeant du gouvernement autonome de Bougainville. Je crois que le succès actuel du référendum démontre clairement que le peuple de Bougainville, par ce résultat victorieux, peut ressentir désormais que psychologiquement, il s'est libéré. Voilà, le pouvoir du vote face aux armes. Car ce référendum doit permettre de tourner la page d'un conflit meurtrier. 20 000 morts avant le cessez-le-feu en 98 et près de 20 ans de négociations pour obtenir donc ce vote. Bougainville, c'est un tout petit territoire dont le nom vient du navigateur français Louis-Antoine de Bougainville, qu'il explora au XVIIIe siècle. C'est une île très pauvre aujourd'hui, malgré ses richesses en cuivre. Elle pourrait devenir, une fois indépendante, une pièce maîtresse dans le jeu d'influence entre la Chine et l'Australie dans cette zone.
Et on imagine que c'est très beau aussi. On termine en Autriche. Nous allons dans le Tyrol.
Oui, c'est un autre paysage. Ouais. Essayez de deviner ce qu'est ce bruit, Fabienne.
Soit c'est une avalanche, soit c'est moi dans mon petit style.
Exactement, voilà. En snowboard, les genoux dévalés à fond la caisse. Donc ouais, ces ouais, pistes enneigées, ces pentes enneigées de la station de Pitztal. 3400 mètres d'altitude, nous sommes sur le toit du Tyrol autrichien, dans une station qui se sent à l'étroit et rêve de fusionner avec le glacier voisin. Car le nombre de skieurs chaque hiver stagne. Alors il faut grandir ou périr, disent wow, les promoteurs du projet d'extension. Leur défi est ajouter 64 hectares aux 120 hectares du domaine actuel, avec un tunnel skiable à travers la montagne, deux nouveaux téléphériques, une télécabine et une liaison pour accéder à la station de Zolden, la mecque des skieurs où la Coupe du Monde de ski alpin est lancée chaque année. Mais les opposants sont nombreux, là aussi, du club alpin autrichien aux militants écologistes. L'impact sur l'environnement doit être évalué le mois prochain par des experts. Et pour compliquer le tout, le Tyrol est l'une des deux provinces autrichiennes gouverné par une coalition entre les conservateurs et les Verts qui ne sont évidemment pas d'accord sur la question.
Donc on n'y est pas encore à notre petit style de ski et
on
de surf.
On pourra s'entraîner ailleurs.
Merci. Oui, pourquoi pas.
Et vous, je jure.
Amélie, à demain.
Oui, avec plaisir.
Allez, voici Bethany Award, Stay High. C'est dans la playlist 2019 de France Inter. Bethany Ward sur France Inter, Stay High. Ah bah tiens, en parlant de hauteur, Eva Béton est là.
France Inter. Un jour dans le monde.
I had a dream. I thought that we could build our nest high up in the trees.
Say no to your race and your hope. You are a traitor.
Eva Béton, le cinéma en VO, c'est ce film de Terrence Malick. Et il faut reconnaître que Terrence Malick, longtemps, ça a été une denrée extrêmement rare. 5 films entre 1973 et 2013. Donc,
le premier, c'était Badlands, ouais, magnifique.
Voilà, et Tree of Life en 2013. Je le sais parce que vous me l'avez écrit. Et puis ensuite, les choses se sont un petit peu accélérées. Voici donc Une vie cachée. Le film est inspiré de la vie d'un homme qui a existé. C'est un paysan autrichien qui a dit non à Hitler.
Alors, ce n'est pas un nom tonitruant, mais c'est un nom inoxydable. C'est intéressant de voir qu'est-ce que c'est qu'un héros pour Terrence Malick. Ce paysan autrichien, donc après l'Anschluss, refuse de prêter allégeance à Hitler et de porter les armes. Et bien sûr, les risques sont énormes. Il y a un souffle chez cet homme, il y a une hauteur de vue, il y a une élévation, il y a peut-être une foi, mais aucune religion n'est citée. D'ailleurs, il n'épargne pas l'institution de l'Église dans ce film. Il y a chez cet homme quelque chose. Et il a été béatifié il y a quelques années. Cependant, Terrence Malick n'en parle pas. Il va citer autre chose. Je vais vous lire ce qui explique le titre du film. C'est une phrase de l'écrivain britannique George Eliot qui dit « Ceux qui vécurent fidèlement une vie cachée et qui reposent dans des tombeaux que personne ne visite plus. » C'est-à-dire un héros qui aurait pu rester inconnu. Un acte qui aurait pu rester ignoré. C'est ça qui fait la grandeur de l'homme et c'est à ça qu'il s'intéresse. Il s'intéresse à son nom et son nom est une sorte de scandale parce qu'il le renvoie au monde. Je voudrais que vous écoutiez ce qu'en dit l'acteur Auguste Dill qui joue le paysan et que Corinne Pellissier avait rencontré à Cannes.
It made me think about my profession, it made me think about my position in life. It goes very deep.
Cela m'a fait réfléchir à mon métier, à mon rapport au monde. C'est allé très loin. Cela tient à la personnalité de Terrence. Ce qui est fort dans mon personnage, c'est le regard de Terrence sur le monde, c'est sa simplicité. Vous savez, en tant qu'acteur, on essaie toujours de faire en sorte de ne pas être ennuyeux. Et j'ai compris que ce n'est pas ennuyeux que le personnage soit comme il est, qu'il ressente ce qu'il ressent. Il fallait jouer sans jouer.
It's kind of sort of non-acting. A little bit in this. I never did something like that because I.
Je n'avais jamais rien fait de tel parce que je n'avais jamais rencontré quelqu'un comme Terry, à qui je pouvais faire confiance pour m'emmener jusque-là. Trois semaines avant le tournage, nous nous sommes rendus dans la ferme et nous avons travaillé. Nous avons appris à nous servir d'outils d'un autre temps. Nous avons appris à être connectés à la Terre. Ensuite, pendant le tournage de scène, nous étions absolument libres. Nous pouvions aller où nous voulions et la caméra nous suivait. Je me souviens que je me disais, heureusement, aujourd'hui l'herbe est sèche, aucune bête n'est malade. Je me souviens que je pensais comme un fermier et pas comme un acteur se rendant sur un tournage.
Et ce qui a fait la renommée de Terrence Malick, c'est le souffle, c'est le rapport au monde, le rapport à la nature qui s'exprime dans ces images. Est-ce que c'est quelque chose qu'on retrouve dans ce film-là?
Oui,
ou pas?
Bien sûr, bien sûr. Il filme une nature qui est très puissante, une nature montagneuse, mais on sent en même temps déjà l'ombre du nazisme dessus. La manière dont sont habillés les personnages, ils semblent d'un autre temps, il y a un côté intemporel. Elle n'est pas niaise, la nature, chez Terrence Malick. Il faut bien être lucide, certains ne le lui reprochent pas du tout. À travers ça, il exprime des idées qui sont philosophiques, qui sont notre libre arbitre dans ce cas précis. Comment fait-on ? Comment est-on un homme ?
Comment on fait pour dire oui ? Comment on fait pour dire non ? Comment être un homme ? Ça en fait un programme. En tout cas, ça s'appelle Une vie cachée. Eva, c'est signé Terrence Malick. Ça nous a donné envie. Ça sort aujourd'hui ?
Oui, c'est
mercredi.
Ça.
Mercredi. Merci beaucoup.
Fabienne Sintès, le 18-20.
Le Monde à l'envers et Isabelle Labéry. Ce soir, Isabelle, on va parler de la plus grosse introduction en bourse de l'histoire. Rien que ça, Aramco, le géant du pétrole saoudien, pèse désormais plus lourd qu'Alibaba, l'autre géant qui était chinois cette fois dans le domaine du commerce en ligne. Un succès qui cache pourtant beaucoup d'incertitudes sur l'avenir de l'Arabie saoudite et c'est votre Monde à l'envers.
Oui, parce qu'en apparence, Fabienne, tout est merveilleux, comme un mirage en plein désert. Aramco entre en bourse, c'est un triomphe, l'argent coule à flot et le royaume wahhabite peut financer son coûteux chantier de diversification économique pour sortir tout aussi triomphalement de la pré-pétrole. Mohamed Ben Salman, le prince réformateur et visionnaire, y gagne quelques galons et l'Arabie saoudite, puissance pétrolière surarmée, prouve au monde qu'elle est aussi une économie prospère et stable. Bon, ça, vous avez compris, c'est le mirage. Maintenant, on rembobine. L'entrée en bourse d'Aramco. C'est un fait, c'est un succès. Quelques secondes seulement après son introduction sur le marché, l'action a pris 10%. L'entreprise est désormais valorisée à 1880 milliards de dollars et devance largement Apple, Microsoft ou Alibaba. Et la bourse de Riyad figure désormais à la 9e place du classement des plus grandes places financières mondiales.
Alors, sauf que c'est un succès bien fragile.
D'abord parce que ce ne sont pas les investisseurs étrangers, mais les Saoudiens qui ont souscrit des actions. On ne va pas dire qu'on leur a forcé la main, mais quand même, les autorités ont mis le paquet. Grande campagne publicitaire, érigeant l'investissement au rang de devoir patriotique. Multiplication des offres de prêts dans les banques. Les grandes fortunes ont aussi été appelées à la rescousse. Surtout les milliardaires qui, il y a deux ans, étaient confinés à l'hôtel Carlton de Riyad au cours de l'opération aux mains propres de Ben Salman contre la corruption. On peut donc dire que l'enthousiasme général est un petit peu surjoué, alors que les grands investisseurs internationaux, eux, sont très circonspects, pour au moins trois raisons. D'abord, la très forte emprise du pouvoir politique sur Aramco, liée de manière indissociable à la famille régnante et à MBS, toujours plombée par l'assassinat du journaliste Jamal Khashoggi. Le contexte régional, ensuite, on l'a vu, En septembre, quand les rebelles Houthis, soutenus par les Iraniens, ont attaqué des installations pétrolières depuis le Yémen à l'aide de drones, la production d'Aramco a été divisée par deux pendant 15 jours. En termes de stabilité, on peut faire mieux. Et puis, à plus long terme, il y a aussi le durcissement des politiques environnementales un peu partout dans le monde, qui incite plutôt à miser sur les énergies vertes que sur le pétrole. En 2018, Aramco était l'entreprise la plus profitable au monde, mais rien ne dit qu'elle pourra tenir le rythme.
Sans oublier la baisse des cours du pétrole, évidemment, Isabelle.
Bien sûr, l'Arabie Saoudite est toujours le premier exportateur mondial de brut. L'or noir est à la fois sa corne d'abondance et son talon d'Achille. Aramco, c'est quand même la moitié du PIB du pays. Acheter des titres, c'est faire un pari sur la hausse des prix du pétrole. Or, on le sait, la demande fléchit. L'OPEP s'est engagée sur une baisse durable des quotas de production. La Russie et les États-Unis, qui avec leur pétrole de schiste ont désormais leur mot à dire au sein de l'OPEP, l'Arabie Saoudite ne règne plus en maître sur le marché du pétrole.
Alors le paradoxe quand même, Isabelle, c'est que cette entrée en bourse doit justement financer la sortie du tout pétrole. Mais là non plus, le pari n'est pas gagné.
Non, parce que cette capitalisation ne représente qu'une goutte d'eau face aux centaines de milliards de dollars d'investissement que demande le plan Vision 2030, qui doit permettre au pays de sortir de cette dépendance. Ce plan prévoit de développer l'emploi dans le secteur privé, de mettre le paquet sur les énergies solaires et renouvelables. Le Royaume a même lancé un projet de ville futuriste estimé à lui seul à 500 milliards de dollars. Il faut aussi attirer les investisseurs étrangers directs à qui le marché est longtemps resté fermé, développer le tourisme, la culture, le sport, puisqu'en janvier c'est au Royaume des Saouds que s'élancera la rallye Dakar. Bref, l'Arabie Saoudite est engagée dans une vaste opération séduction qui lui coûte très très cher et ce n'est pas l'entrée en bourse d'Aramco qui suffira. Le mirage ne va pas durer.
Isabelle Labéry et Le Monde à l'envers, merci beaucoup. Nous, on reste ensemble le 18-20. La suite, c'est un peu le journal de Sébastien Paour. Et puis, le téléphone sonne, on commentera ensemble les explications sur les retraites d'Edouard Philippe cet après-midi. Ne bougez pas, n'allez pas trop loin.